Aujourd'hui, nous allons parler théâtre à l'occasion de la mise en scène de Julie et quelques autres, une fantaisie théâtrale autour de Georges Bataille, celle dont l'invention théâtrale est de Michel Beretti et la mise en scène de André Stégère. Et cela commencera donc samedi prochain à l'Orangerie dans le festival d'été que nous avons souvent présenté. André Stégère, bonjour. Quand Bataille écrit « Une conscience en scandale est une conscience aliénée », est-ce qu'il fait l'apologie de la transgression ?
Oui, alors, je pense qu'il faut bien préciser, effectivement, que le contenu même et la forme de cette formulation de Bataille montrent qu'il s'agit prioritairement de lui-même. La transgression suppose quand même le rapport aux autres. Certes, il y a transgression tout au long de l'écriture de Bataille, tout au long de son œuvre, tout au long de sa vie d'ailleurs, mais c'est surtout la perversion qui est en jeu. C'est-à-dire que la perversion, à mon sens, est quelque chose qui s'adresse d'abord à soi-même. Bataille se parle à lui-même quand il dit cette phrase. C'est-à-dire que donc il va entreprendre de raconter en quelque sorte, et peut-être même sans le vouloir, peut-être par trajet d'inconscient, il va raconter son propre combat avec lui-même.
Est-ce que le personnage d'Henri qui est dans Julie est une sorte d'autobiographie, un miroir de lui-même ?
Alors, un miroir déformé, s'il y a miroir. Autobiographie, non. C'est qu'il y a toujours un substrat autobiographique dans l'œuvre de Bataille, mais on ne pourrait jamais repérer des clés. On peut approcher, par exemple, il y en a qui disent que Simone Weil est un personnage de tel ou tel roman. Seulement, et il situe ce personnage, par exemple, en Espagne, au moment de la révolte des Catalans, mais on sait qu'elle n'était pas là à ce moment-là. Donc, il prend mais je crois que c'est le propre de toute création artistique, on prend des éléments référentiels un peu partout, et puis on les brouille. On les mélange. Et alors, chez Bataille, justement, ça s'accentue du fait de la perversion. C'est-à-dire qu'il montre des pistes, mais il montre que ces pistes sont fausses.
Alors, ces pistes, aujourd'hui, Bataille a bien sûr beaucoup dérangé son époque. Rappelons qu'il est né en 1897 et décédé en 1962. Qu'en est-il aujourd'hui de la réception de l'œuvre de Bataille à partir du moment où on peut presque dire la perversion, pour ne pas dire la transgression, comme vous l'avez dit, est monnaie courante,
oui, alors
ou étalée partout.
Oui, on peut dire qu'il y a un signal commercial, simplement. Bataille paraît quand même maintenant, pas tout, mais certaines œuvres de Bataille, dans des folios, dans des livres de poche. Donc, on voit quand même qu'il y a eu une adaptation, mais je pense que c'est pour tous les auteurs qui travaillent sur ces marges de la morale sociale, borderline, on pourrait presque dire, ils subissent tous un refus, un rejet, et peu à peu, la société quand même évoluant, se transformant, et finissent par être intégrés à un mouvement général. Certes, il reste toujours une méfiance envers Bataille. Mais, encore une fois, avec ce système de perversion, il y a 2, 3, 4 batailles. Il ne faut pas oublier que c'est un des auteurs, avec Pessoa, qui a le plus pratiqué l'hétéronymie. Il a rarement signé Georges Bataille. Hein, ses textes sont signés, par exemple, Laure Hoche.
Il s'est inventé une série de personnages comme Pessoa.
Comme Pessoa, exactement. Laure Hoche, qui d'ailleurs en plus est une clé importante. Lord, en anglais, c'est Dieu. Hoche, c'est l'abréviation d'Oshiot. Donc Laure Hoche, pour lui, ça voulait dire le Dieu Oshiot. Donc là, il y a transgression, bien sûr. Mais en même temps, cette transgression, comme il avait longtemps voulu dans son mysticisme d'enfance, d'adolescence, faut pas oublier que son premier texte, Notre-Dame de Reims, R-H-E-I-M-S, situé dans l'Auvergne, il faut pas oublier qu'il a écrit ce bouquin, il a été publié, c'est le seul bouquin de Bataille qui a été publié pendant très longtemps. Les textes réellement érotiques et agressifs sont publiés longtemps après et presque toujours sous des pseudonymes.
Mais dans toute l'œuvre de Bataille, il n'était pas le seul à avoir voulu dépasser les limites. Qu'est-ce qui a dérangé le plus dans son œuvre à l'époque? Est-ce l'association érotisme-religion, extase mystique et sexuelle? Est-ce que c'est l'ajout de la religion dans ce domaine qui a justement provoqué réaction?
Chez ce qu'on appelle, pour reprendre le mot de Brassens, les bien-pensants, oui, ça certainement. Mais en même temps, il gênait les autres. Pourquoi ? Parce que Bataille avait une double écriture. Il ne faut pas oublier qu'il collaborait à des revues à la fois très avant-gardistes et en même temps des revues politiquement, incorrectes pour les moralistes. C'est-à-dire, quand il préparait d'ailleurs un bouquin qu'il n'a jamais écrit, évidemment, comme beaucoup d'ailleurs de ses titres annoncés, sur le fascisme et sur le nazisme, contre le fascisme, contre le nazisme. Il a adhéré à des mouvements de lutte contre le nazisme. Et en même temps, donc ceux qui étaient dans ce combat-là avec lui, politique, on pourrait dire, ou sociologique, ils étaient en désaccord souvent sur le plan du contenu de ses romans. Donc il y avait... Je crois qu'il a, comme je le disais tout à l'heure, troublé toutes les cartes du jeu.
Alors maintenant, vous le mettez en scène. Est-ce que vous trouvez que la perception, sa réception plutôt, est plus facile aujourd'hui ?
Ah oui, incontestablement. Ce qui reste finalement de provocateur dans Bataille, c'est qu'il parle la sexualité, alors que de nos jours, on la montre. Montrer la sexualité, c'est faire consommer des images où le sujet qui regarde l'image n'est pas affecté. Entendre la sexualité, la lire, c'est se former en soi-même les images que le texte suppose. Donc là, il y a toujours de l'inquiétude parce que ça met en question le sujet lui-même.
Là, vous rejoignez les auteurs qui refusaient que leur texte soit illustré.
Oui, Bataille s'est longtemps interrogé là-dessus, d'après ce qu'on sait, mais il était très lié à des grands graphistes, comme Masson, par exemple, et donc il y a certains de ses ouvrages qui ont été quelque part publiés avec des illustrations, mais qui sont des dessins, je dirais, abstraits de la sexualité. C'est-à-dire qu'on voit même des poses infaisables, malgré une étude approfondie du Kama Sutra, par exemple. Hein, les réaliser supposerait une des conditions athlétiques absolument exceptionnelles. Donc il y a toujours une distance qui prend.
Audrey ? Et qu'est-ce qui apporte l'affirmation de la sexualité à l'individu, toujours selon Bataille ?
Alors, moi je pense que on pourrait le reformuler un peu... autrement, je pense que on ne saura jamais ce que Sade, ce que Sacha Masoch, ce que X, Y et Bataille peuvent apporter sur ce plan-là. Parce que c'est une question intime. C'est une question de soi à soi. Et je pense, par contre, que tout le monde fait un trajet à partir de là. Tout le monde est dans une instance pédagogique. Mais c'est incommunicable. C'est très secret. Et je ne sais pas si vous avez lu Bataille, votre perception de la sexualité, notamment et de l'apprentissage d'une nouvelle sexualité, eh bien, ça restera la vôtre. Vous ne pouvez pas la partager, moi non plus. Même si on la partageait ensemble, on ne la partagerait pas.
Et alors comment recevez-vous, pour élargir à d'autres auteurs, l'affirmation ou la présentation de la sexualité? Je pense à des livres comme Catherine Millet ou comme Hier dans Libé, où une écrivain faisait l'apologie de la sodomie en titre de récupération d'un pouvoir. À quoi attribuez-vous cette nécessité de la projeter au public?
Là, vous avez prononcé un mot important, c'est pouvoir. Et en débordant un peu la question... Je dirais que le théâtre ne s'est jamais préoccupé que de la question des pouvoirs, du pouvoir. C'est la seule thématique générale du théâtre, depuis Eschyle jusqu'à nos jours. Et même le boulevard, comme je le dis un peu ironiquement, c'est toujours qui a le pouvoir dans le couple, à qui a le pouvoir notamment de tromper l'autre. C'est le fondement du théâtre de vaudeville. Eh bien, cette question-là, je pense que Bataille la pose dans ce rapport, peut-être cette division du moins, qu'en est-il du pouvoir social, donc politique, et qu'en est-il du pouvoir individuel ? Donc, il va balancer tout le temps, un peu comme je disais, il a une double vie en quelque sorte, une triple, une quadruple vie, et il distribue les pouvoirs pour les annuler. Il y a une sorte d'anarchie sociale. Ce n'est pas un anarchiste individualiste, c'est un anarchiste social. Il va mettre en cause la question des pouvoirs, et notamment du pouvoir fortement répressif de la sexualité, qu'on peut voir de nos jours encore dans certaines, moins dans la civilisation chrétienne, mais quand même dans les civilisations non plus judéo-chrétiennes, mais judéo-musulmanes, on trouve encore ce coup de frein par rapport à la sexualité. Et dit, tant que l'individu ne sera pas libéré de certaines oppressions qu'il se constitue souvent lui-même, jamais la société ne pourra envisager un rapport libératoire.
Est-ce que la présentation, l'exhibition de sa sexualité, de son affirmation, est une prise de pouvoir par rapport à ceux qui la reçoivent, qui la lisent ou qui l'entendent ?
Ah oui, ça en tout cas, mais on n'oublie pas, il ne faut pas oublier plutôt que ce qui commande sa pratique, c'est la jouissance. C'est qu'il aime ça, et que donc à partir du moment où il aime toutes ces situations ultra perverses, il est complètement en accord avec son écriture.
Audrey ?
Dans votre texte de présentation, vous annoncez que le sujet de l'érotisme est sérieux, ajoutant même que le pire des crimes est le harcèlement antisexuel. Est-ce que vous entendez par là la négation du genre ?
Mais écoutez, on est dans une société biologiquement sexuée et socialement sexualisée. À partir de ce moment-là, dire le sexe ne doit pas apparaître dans aucun... c'est être contre le vécu humain, purement et simplement, et contre le vécu social, purement et simplement. Puisque, donc, je crois que en promulguant des lois anti, on fausse le jeu. Comme en promulguant d'ailleurs des lois pro. Je crois qu'encore une fois, il faut simplement poser les problèmes, mais ne pas les régler avec des instances complètement jugulatoires.
André Stégère, ce texte Julie, qui a été dans la version théâtrale et de Michel Beretti, comprend plusieurs textes, dont le texte principal de Julie. Comment avez-vous procédé ou qu'est-ce qui a dirigé votre choix d'autres textes ?
Alors l'idée fondamentale, c'était d'abord de répondre à une demande que Bataille formulait lui-même, souvent sous des formes allusives. Il voulait écrire pour le théâtre. N'oublions pas qu'il était marié à cette époque-là, enfin pas à l'époque de Julie, mais au début avec Sylvia Bataille, future femme de Lacan, mais comédienne aussi, qui a joué avec Renoir dans différents grands rôles, on connaît, et il était assez fasciné. Donc, il tournait autour de comment faire pour écrire une... Il n'a jamais écrit à proprement parler, il en a beaucoup parlé indirectement, comme l'histoire d'Orestie, enfin bon. Et ce qui est étonnant, c'est que dans Julie... on a, pour la première fois, peu de didascalie, on pourrait dire, d'explications romanesques, mais beaucoup de dialogues. Alors on est parti de là en disant, c'est ce sujet qui est une nouvelle peu connue de Bataille, c'est ce sujet qu'on va aborder, traiter, parce qu'il englobe toute une partie, la plus grande partie de la thématique de Bataille. Donc, à partir de là, je l'ai dit à Beretti, j'aimerais pas qu'on monte une pièce de théâtre, mais comment on pourrait faire une pièce de théâtre avec ce texte ? Alors en fait, la fable est très simple. Trois comédiens, deux femmes et un homme, constituent une jeune troupe, et ils demandent au service culturel de la ville si on peut leur prêter un lieu de répétition. Malheureusement, il n'y a que l'orangerie. Alors on leur prête l'orangerie, on débarrasse un peu les plantes, on en laisse quelques-unes, et puis on leur permet de répéter là-dedans. Et ils trouvent dans cette orangerie, qui date du 19e, donc qui a accumulé des traces, des mémoires, ils trouvent des éléments épars, des bouts de texte, et peu à peu, ils les constituent devant nous en spectacle possible. Hein, n'oublions pas qu'un des grands mots de Brecht, de bataille, on vient de parler de Brecht pendant la pause, de bataille, c'est l'impossible. Donc, ils vont essayer de dire, voilà, on va faire un spectacle là-dessus. On ne savait pas quoi monter, c'est ce qu'on va monter. Donc, on assiste à une sorte de préparation au deuxième degré du spectacle Julie. Et c'est ce qui constitue le spectacle.
Alors, le spectacle, enfin, la pièce, pardon, le texte de Julie se situe à Genève avant la guerre.
Non, ce qu'on dit bien dans le préambule, c'est la coulisse de la pièce. C'est-à-dire que ça se passe à Tilly, en Normandie, où Bataille a habité d'ailleurs quelque temps, donc il y a toujours des traces autobiographiques, donc, et la maîtresse de Henri, le personnage, donc Julie, aurait un amant à Genève. Elle devrait aller à Genève pour rompre avec cet amant, pour confirmer son engagement avec Henri. Et bon, ça partir. Donc Genève est un lieu que Bataille ne peut, si c'est Henri, Bataille ne peut que haïr, puisque c'est le lieu de l'amant de Madame. Donc il y a en même temps de l'ironie. Il y a beaucoup d'ironie. À mon sens, il y a beaucoup de drôlerie, une drôlerie d'ailleurs grave, difficile. Mais et puis la guerre filtre derrière parce qu'on est, il situe cette nouvelle, ce roman en 39. Au moment de la déclaration de la guerre. Donc il y a quelque chose, mais lointainement, des traces de ce qu'on disait tout à l'heure, son accroche à l'histoire. Pas seulement à son histoire personnelle, mais à l'histoire en général.
Alors la scène se déroule autour d'un lit, cette pièce. Est-ce une incursion dans l'intimité, ou est-ce que c'est aussi une façon de nous montrer, de rendre publiques les clés du désir et de nos tourments?
Alors, il y a une astuce de Bataille lui-même, c'est que le lit, il est soit du passé, c'est l'évocation de sa conquête de Julie, soit d'un futur qui va se réaliser sous nos yeux, mais assez troublant, c'est qu'au moment où le lit ne sera plus un lit de malade, mais un lit de plaisir, il n'est plus là. En fait, le lit de plaisir n'est utilisé que par les femmes.
Est-ce que la présentation, donc le rire, la mort et le sexe, qui peut être sous forme de plaisanterie, comme vous le disiez tout à l'heure, avec humour, il me semble que Bataille récusait aussi parfois l'association entre érotisme et jeu.
Oui, le jeu, mais pas la comédie. Je crois que c'est le problème, c'est que on est, nous, en français, appauvris par le vocable jeu. Les Anglais ont le play et le game. Ça explique bien le jeu brutal, libre, et le game, le jeu à règles. Hein, on joue selon des règles. Et ce jeu-là, c'est l'intéressait doublement, parce que s'il n'y a pas de règles, on ne peut rien transgresser. Alors que s'il y a des règles, on peut le transgresser. Donc, le jeu n'est pas absent. D'ailleurs, il va dans le roman, les personnages vont utiliser, c'est une comédie, on est dans une comédie atroce, on est dans une comédie infâme, il y a une sorte de presque de redondance sur l'évocation métaphorique ou réelle du jeu de théâtre, c'est-à-dire du jeu à règles.
Alors, comment avez-vous choisi de le présenter au théâtre? D'un côté, ne pas révéler, de garder une certaine intimité. De l'autre côté, vouloir mettre en scène et montrer peut-être nos travers, sinon nos excès.
C'est difficile de répondre à cette question pour la bonne raison que je suis en train, imprudemment, de répondre à vos questions sur ce problème-là. Donc, je lève le mystère, en quelque sorte. Donc, enfin, tout au moins une partie. On s'efforce de montrer comment peut progresser un récit de théâtre. C'est-à-dire comment, peut-être, je crois qu'il y a dans cette œuvre de Bataille, mais de Beretti, beaucoup, Michel Beretti a travaillé très, on a la notion des tropismes, c'est-à-dire ces petites unités narratives dont parle Nathalie Sarraute et dont elle fait le substrat de ses romans, des tropismes, c'est-à-dire des petits moments d'action, des petits moments de mise en situation qui accumulées ou contredites font que le schmilblick avance.
Et qui sont des situations généralement que l'on pourrait qualifier de sans intérêt de notre
sans
vie de tous les jours.
Sans intérêt souvent, et puis qui tout d'un coup trouvent un intérêt dans cette, quand je dis sans intérêt, pas pour les individus qui les vivent, car on est tous à vivre des tropismes à longueur de journée.
Mais il nous semble des événements sans conséquence.
Voilà, il nous semble des... Et puis, ça se révèle évidemment d'une conséquence fondamentale pour notre avenir, mais aussi pour notre présent, surtout.
Alors, Julie, est un texte qui a été laissé en plan, si on peut dire, par Bataille. Pourquoi l'a-t-il laissé inachevé?
Alors, ça...
Puisqu'il n'était pas mort par avant, je vais
non,
dire dans
mais,
la suite.
Bon, il a commencé des tas d'œuvres qu'il a... Pas, on a quand même quatre versions du Bleu du Ciel, où on a... je veux dire, il y a... ça, c'est le propre des écrivains. Ils démarrent un truc, et puis il y a un moment donné où ils sont requis par autre chose, donc on part sur une autre piste. Et puis en même temps, il y a toujours chez Bataille l'idée que, comme il était finalement élève de l'école des Chartres, qu'il était donc bibliothécaire, conservateur officiel comme métier, il y a toujours cette question... qu'une sollicitation nouvelle, prenons le cas simplement de l'ethnologie, quand avec Michel Léris, il parle d'ethnologie, parce que Léris suivait les cours de Marcel Mauss, tout d'un coup, il se passionne pour une partie du discours de Mauss, notamment sur la notion de dépense, et il fait carrément une œuvre d'ethnologue, en quelque sorte. Donc il est tiraillé par des mouvements différents. Et peut-être qu'à un moment donné, je crois que c'est son système, hein, il commence... Mais toutes ses œuvres, celle-là, il ne l'a pas reprise, il aurait pu la reprendre. Mais par contre, il l'a reprise d'une façon implicite dans Le Mort, qui est écrit à la même époque, où il confirme cette histoire de Julie. C'est pourquoi Michel a ramené, dans le caractère intertextualité, il a ramené des citations du Mort.
Et vous avez donné le titre, donc Julie et quelques autres, bien sûr, en rapport avec les autres textes, mais vous la qualifiez de fantaisie théâtrale. Est-ce que vous voulez également ramener le côté ludique dont nous parlions tout
oui,
à l'heure?
Ça en tout cas, oui. Fantaisie, d'ailleurs, en même temps, le jeu de mots qu'on avait élaboré là-dessus, il est simple. Fantaisie, c'est le terme allemand de fantasme. Donc, on joue sur ce rapport. Est-ce que c'est une fantaisie... drôle, gaie, amusante, ou est-ce que c'est une fantaisie fantasmatique?
Alors, je voudrais rappeler donc André Stégère que vous commencez samedi prochain, vous dites que c'est pas encore terminé, la mise en scène n'est pas terminée.
Non.
Et vous allez également présenter...
J'ai été en train de régler les éclairages pour venir chez vous, j'ai quitté ça, et l'éclairagiste Jean-Michel Carra m'a dit « N'oublie pas de parler des éclairages à la radio, ça se voit beaucoup
». Alors parlons aussi de Camille Vousalio, François Révaclier et Isabelle Tosich, qui sont les trois interprètes. Et aussi de la journée mardi 29 août à 19h. Vous aurez donc Daniel Willem qui va venir pour une conférence à propos de Julie. Et aussi des lectures de récits, c'est ça?
Willem est un très grand connaisseur de Blanchot, de Bataille. Enfin, on connaît son œuvre. Mais il a travaillé aussi sur l'ironie viennoise, donc la dimension d'humour n'est pas du tout absente. Et je pense que c'est un de ceux qui est habilité à parler de Bataille d'une façon importante, d'une part. Et puis, on pourrait dire que on est dans un état d'incertitude, hein, à trois jours d'une première, à deux jours d'une première. On sait ce qu'on a déjà élaboré, mais comment ça va prendre finalement? Alors, mes comédiens, je me suis précautionneusement entouré d'anciens élèves ou stagiaires, des gens que j'ai eu en formation, soit au Conservatoire de Lausanne, avec qui j'ai beaucoup travaillé, déjà, dont un texte de Michel Beretti au Malheur des Dames, qu'on avait fait avec eux. Et puis, la troisième comédienne, Isabelle, je l'ai eue en stage à Saint-Gervais. C'est des gens avec qui on peut établir une complicité. Parce qu'alors, pour jouer ce genre de texte, il faut une grande complicité, et puis une grande liberté de pensée, d'expression, simple, je veux dire, simplement... Il faut qu'on soit d'accord pour foncer là-dessus.
Alors que nos auditeurs foncent aussi, puisque les représentations seront assez courtes, ce sera du samedi prochain au mardi, donc mardi le 29, et c'est à 21h au Théâtre de l'Orangerie.
Oui, si vous permettez, en ajoutant que Florence Magny, la scénographe, comme on dit de nos jours, enfin décoratrice costumière, a aménagé l'espace de l'Orangerie, ainsi que les costumes et les accessoires, d'une façon, je crois, particulièrement habile, et qui correspond bien à la vision qu'on avait avec Beretti.
André Stagère, merci. Et alors, à bientôt au Théâtre de l'Orangerie. Je rappelle aux auditeurs que les renseignements peuvent être obtenus sur le site web www.theatre-orangerie.ch et que le numéro de téléphone pour les réservations est le 076 470 77 04.